Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Mario Dumont.
Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis quelque temps déjà, d'autant plus que vendredi, Santé Canada a donné le feu vert officiellement en fin de semaine. Mario, bon, on a vu que les premières doses arrivaient en sol canadien. Et là, nouvelle majeure, là, point de presse mardi à heure de des grandes annonces à 17h.
Ouais, Mario. Les points de presse de 17h, on les avait oubliés.
C'est ce que ça veut dire. Oui, on a eu droit à quelques-uns mémorables dans les derniers mois. Le ministre de la Santé sera là. Le premier ministre François Legault y sera également. C'est lui justement qui en a glissé mot aujourd'hui alors qu'il était de passage à Montréal, ainsi que le directeur de la vaccination pour le Québec, Daniel Paré. Donc 17h mardi soir. On sent que Québec veut commencer là, très rapidement la vaccination à la suite de ce feu vert là, qu'on a reçu, parce que le bilan, Mario, est encore une fois à la hausse. Là. La tendance, on l'observe encore une fois cette semaine. On est à 692 cas aujourd'hui, 2 décès supplémentaires, 5 hospitalisations de plus, on est à 204, 5 personnes de plus aux soins intensifs aussi pour un total de 46. Ce sera un point tournant là, dans la pandémie. Hein.
Oui, mais c'est parce que là, on vaccine, on donne un petit peu de troisième dose, mais essentiellement, là, c'est quelques centaines, quelques milliers de retardataires ou récalcitrants, appelle-les comme tu veux, mais on vaccine très peu. Donc là, avec les 5 à 11 ans, dans notre taux de vaccination collectif, là, ça va être des milliers de nouveaux vaccinés. Et veut pas, la maladie circule beaucoup dans les écoles primaires. On oublie parfois, quand on dit dans les bilans quotidiens, puis tout ça, ben, mettons, je sais pas, une journée, il y a 700 nouveaux cas. On dit sur les 700, il y en a 400 qui sont des non-vaccinés. Mm-hmm. Mais on a tendance à voir des non-vaccinés comme étant, tu sais, des gens là, qui ont 40 ans puis qui ne sont pas allés se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas voulu. On oublie que là-dedans, c'est plein d'enfants.
Ah ben oui.
Tu vois, c'est des mettons, on dit, oui, il y en a 400 oui, non vaccinés oui, là, oui. Sur les 700. Mais sur les 400 non vaccinés, il y a peut-être 200 qui sont des non vaccinés vraiment qui n'ont pas voulu. Mais ça se peut qu'il y en a 200 qui ce sont carrément des enfants qui n'ont pas eu. Ça ne leur a pas été offert. Il n'y avait pas l'âge pour être vacciné parce que dans les écoles primaires, là, présentement, dans les écoles primaires des cantons de l'Est, la COVID circule énormément, cause énormément de maux de tête. Donc, ça va aider notre portrait épidémiologique, c'est sûr, là, le fait que les enfants soient vaccinés.
Oui, ça va être effectivement un stade important parce que quand on regarde, puis je suis persuadé que tu fais le même exercice que moi, là. Depuis le début de la pandémie, moi j'aime beaucoup regarder ce qui se fait en Europe parce que...
Puis là, ça serait mieux pas ces jours-ci.
Ouais, parce que si on aurait peut-être intérêt. Mais parce que honnêtement, la cinquième vague là-bas, c'est pire que jamais pour plusieurs des pays. Le portrait qui a changé là radicalement l'espace de 2 semaines, on a dû ramener des restrictions à plusieurs endroits. Je fais une petite parenthèse parce que c'est une nouvelle qui est tombée dans la journée. Là. La France ne fait pas nécessairement partie des pays où c'est le pire en ce moment, mais le premier ministre, Jean Castex, a testé positif à la COVID. C'est tombé, ah
ouais.
Là.
Ben, tu dis, c'est la France. C'est parce que là, on compare la France avec les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, des pays qui ont leur pire journée depuis le début de la pandémie, là, depuis mars 2020, depuis février 2020. Mais la France, là, ça a quand même doublé là, en une semaine.
Le nombre de cas.
Mais c'est moins, là. T'sais, c'est moins que les autres, c'est moins dramatique. Mais je voyais quand même des experts en France qui sont inquiets et qui disent des choses qu'on à peu près identiques à ce qu'on vit ici. Là. Le système de santé est en mauvais état, on est limite en termes de personnel. Il y a une grosse crainte des Français qu'il y a eu une montée de cas au début décembre, qui amène quoi? Les hospitalisations arrivent deux semaines après, trois semaines après. Donc, une montée d'hospitalisation à Noël. Et là, ils disent le système de santé serait vraiment, vraiment, vraiment pas à Noël dans une position pour accueillir des patients massivement.
Oui, c'est une inquiétude qui est présente, c'est clair, parce que, bon, tu fais référence à la France, le premier ministre est en isolement maintenant pour une dizaine de jours, mais en fin de semaine, ça brassait aux Pays-Bas, là, les gens se sont vraiment ont descendu dans les rues, ont manifesté contre les restrictions sanitaires. En Belgique aussi, la police a sévi contre des milliers de manifestants qui étaient rassemblés à Bruxelles, où là, les autorités ont dû utiliser des canons à eau, des gaz lacrymogènes. Et depuis minuit, l'Autriche est officiellement confinée à nouveau. Et ça va durer au moins jusqu'au 13 décembre prochain. Les commerces, les restos, les marchés de Noël, tout ça est fermé. Les concerts sont annulés. On garde les écoles ouvertes. Mais la grosse différence aussi par rapport à nous, Mario, c'est le taux de vaccination. Quand tu regardes l'Autriche, on est à 66% de population pleinement vaccinée. Elle va devenir obligatoire, cette vaccination-là, d'ailleurs, à partir du 1er février 2022.
Donc, ils n'ont pas nécessairement fini là, d'avoir des manifestations, puis de la colère, puis de l'expression de frustration, si on se fie à ce qu'on, si on se fie à ce qu'on voit. Là. Mais c'est la triste. En fait, ce qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est bon, là... La campagne de vaccination est partie, on a encouragé les gens à se faire vacciner. Il y a eu un peu d'impatience avec les non-vaccinés, mais tant que la pandémie, tant que tout le monde avait repris ses activités régulières, disons que les gens, l'impatience envers les non-vaccinés était pas... Quand je dis l'impatience, autant du grand public que des gouvernements eux-mêmes. C'était pas si pire. On se disait, regarde, là, on va au restaurant, la vie continue, il y en a qui sont pas vaccinés, bon, tant pis pour eux. Mais à partir du moment... où tu réinstaures là, des confinements, des fermetures, et c'est ce qui se vit en Europe,
ben oui.
Là, la colère envers les non-vaccinés prend... D'abord, les non-vaccinés, eux, viennent en colère parce qu'ils souffrent de restrictions supplémentaires, puis le reste de la population devient furieux contre les non-vaccinés en disant, ben regarde, là, c'est eux qui contribuent à l'accélération de la vague suivante. Donc, t'es dans une société où, de part et d'autre, là, on est très déchiré.
Il y a des images qui marquent plus que d'autres et celles-ci ont fait le tour du monde dans les dernières heures à la suite de ce défilé de Noël qui a tourné au drame dimanche au Wisconsin du côté de Waukesha. On a eu un point de presse attendu de la police là de la municipalité cet après-midi où bon d'abord on écarte la thèse de l'acte terroriste, parce que ça avait circulé quand même là dans les dernières heures.
Ben, c'est parce qu'on en a eu là, des véhicules béliers qui frappaient dans des foules. C'était devenu une des folies du terrorisme, une des façons pour les terroristes de terrifier le monde.
Alors, quand on voit des scènes comme celle-là, c'est sûr que ça venait à l'esprit. Maintenant, voici ce qu'on sait dans cette histoire-là. Le suspect dans cette histoire, Darryl Brooks Jr., il a été arrêté, fait face à 5 chefs d'accusation d'homicide. Faut quand même comprendre, 5 personnes ont perdu la vie. Il y a des quarantaines de blessés, dont plusieurs enfants. Des scènes désolantes où on voit là, ce VUS rouge le foncer là, dans la foule, foncer dans la parade comme telle. Des images très, très difficiles à voir. Et qui est-il, ce gars-là? Ben, c'est un chanteur de rap amateur qui a vraiment des antécédents criminels longs comme le bras. Et dans ce cas-ci, ben, il était sorti de prison vendredi, là. 2 jours avant le drame de dimanche, après avoir déposé une caution de 1 000 $ lors d'un incident. Et c'est en lien, encore une fois, avec des événements arrivés en début novembre. Là. Violence conjugale, il aurait foncé, semble-t-il, là, sur une dame avec un véhicule. Alors là, c'est assez troublant. Et selon ce que CNN nous apprenait aujourd'hui, Brooks... aurait, dans les minutes précédant le drame de la parade de Noël, fui une scène de crime impliquant encore une fois de la violence conjugale. Alors, quand même assez incroyable, mais vraiment, là, des scènes épouvantables. Quelques semaines comme ça, là, alors qu'on est, tu sais, dans l'ambiance des fêtes, une parade de Noël comme ça, et il y a une camionnette là, qui vient bouleverser le quotidien là, de plusieurs personnes, Mario.
Non, mais c'est pas... c'est pas pensable, là. Tu dis que pour les gens qui sont là, mettons les parents avec un enfant, ben, un camion fonce dans la foule, comment tu réagis, alors, comment t'as peur, comment tu réagis, comment t'es choqué quand ton enfant est blessé. Ou... Et là, il y a 5 personnes qui ont perdu la vie, 40 blessés. C'est un carnage qui est vraiment triste. Bon, l'individu, j'ai l'impression que cette fois-ci, il est en prison pour le vrai. Là. Parce qu'il sortait de prison après quelques jours, là, je pense qu'il y est pour le vrai.
Tout savoir en 24 minutes.
Première rencontre entre Valérie Plante et François Legault. Depuis sa réélection, on voulait parler d'habitation, on voulait parler de transport. Mais finalement, ce qui a retenu l'attention, Mario, c'est vraiment la sécurité à Montréal, la violence par arme à feu. La ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, était là aussi de ce point de presse-là. Essentiellement, ce qu'on a appris, c'est que le gouvernement a l'intention de donner un grand coup. Là. Je reprends les paroles du premier ministre. Il y aura une annonce de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui devrait venir avant Noël. Et Mario, ça survient un moment où, aujourd'hui, le SPVM nous annonçait avoir quand même réalisé un coup de filet non négligeable. 14 arrestations, 15 armes à feu saisies au cours des derniers jours dans le cadre de toutes sortes d'opérations. Quand on regarde le profil des gens qui ont été arrêtés, on parle de personnes âgées de 16 à 41 ans. Donc, il y a quand même des ados qui ont été arrêtés dans ce coup de filet-là, des perquisitions qui se sont déroulés dans le Vieux-Montréal, dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, la Chine, Saint-Laurent, Rosemont, la Petite-Patrie, Ville-Marie et Antique Quartier-Ville, donc des arrondissements qui ont été impliqués dans toutes sortes d'événements dans les dernières semaines. Et ça fait suite aussi à ce rassemblement en fin de semaine, ouais, hein, pour commémorer la mémoire de Thomas Trudel, ce jeune de 16 ans qui a été abattu en pleine rue dans Villeray-Saint-Michel, Parc-Aix, il y a une semaine, là, c'était dimanche passé. Et il y a plusieurs personnes qui ont montré du doigt le fédéral. Parce que, bon, Montréal ne peut pas agir seul, Québec non plus. Et là, ben, il y avait Pablo Rodriguez en fin de semaine qui, je suis persuadé, je sais qu'il est touché par ce qui se passe. Lui-même, il est père de famille, mais certains l'ont accusé d'être venu avec les mains vides à cette rencontre-là. Juste avant de commenter, Mario, je te fais entendre l'extrait de David Shane, qui est du service de police de la ville de Montréal.
On parle d'armes à feu, d'armes longues, on parle de pistolets, on parle de munitions, quelques pièces artisanales aussi, silencieux, ainsi de suite. Et ça a été réalisé autant par notre personnel spécialisé que par nos patrouilleurs qui travaillent sur le terrain. La clé du succès dans la lutte aux violences par armes à feu, c'est l'implication de la population. On parle d'une responsabilité partagée, donc la police seule ne peut pas réussir.
Ils en parlent de plus en plus, hein, du besoin que les citoyens fournissent d'informations, dénoncent les personnes qui se promèneraient avec des armes à feu. Là,
c'est vrai?
Oui. Si tous les citoyens disaient à la police ce qu'ils savent, probablement que ça pourrait accélérer accélérer les enquêtes, permettre d'en saisir des armes à feu. Je comprends qu'il y a des citoyens qui ont des secrets ou qui ont participé à des secrets, mais il y en a qui savent des choses et qui peuvent aider la police. Pour revenir sur Pablo Rodriguez, le fédéral a certainement un rôle au moins sur 2-3 fronts, là. D'abord, la sévérité du code criminel en matière de possession pour punir les gens qui ont des armes à feu prohibées. Là, qui se promènent. Parce que quand tu te promènes avec une arme à feu illégale, disons une arme de poing qui est interdite de vente au Canada, tu fais quoi avec ça? Là? C'est dur de penser que c'est banal. Ah, moi, j'aime ça. Je promène mon arme. À la limite, là, un collectionneur qui l'aurait dans un coffret chez lui, ça est illégal, pourrait toujours te convaincre. Moi, je suis un super maniaque collectionneur, j'ai pas le droit d'avoir ça, mais regarde comment je l'ai.
Mais en ville, là.
Quand tu l'as dans ta poche de veston, ben dans ta poche de manteau en ville, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Mais ça, c'est. Le ministre de la Métis, la semaine passée, a dit: on est plus sévère qu'on était avec ça. C'est complètement faux. Ils se sont fait élire en 2015, les libéraux se sont fait élire en promettant d'être moins sévères, en promettant d'enlever les peines minimales qui avaient été... On se souvient de tout ce qu'on disait contre les lois de Stephen Harper. C'est ça qu'ils ont promis, c'est ça qu'ils ont fait. La Cour suprême a rendu les lois moins sévères aussi. Donc, se faire prendre avec une arme prohibée, c'est pas vrai que c'est plus grave. Là. On crie, nous autres, on chiale, on dit ça n'a pas de bon sens, la violence, mais soyons réalistes, une société doit être assez mature pour savoir ce qu'elle a fait, là. On est moins sévère avec ça en 2021 qu'on l'était, mettons, en 2014. On est moins sévère. C'est moins grave de se promener avec une arme prohibée sur la rue aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc ça, faut mettre ça dans le décor. Deuxièmement, le fédéral est responsable de la frontière. Ils disent, ouais, la frontière, on a fait beaucoup de choses. Ben, beaucoup de choses avec peu de résultats, là, en tout cas. T'sais, c'est ça aussi, un gouvernement est jugé sur ses résultats. Alors, je dis pas que c'est facile, Pablo Rodriguez. Il peut pas arriver avec, des solutions miracles. Il vient participer à une marche. Peut-être que les gens sont trop exigeants. Mais il appartient à un gouvernement qui a pas été beaucoup présent dans la crise, qui a réagi plusieurs jours après que le jeune Trudel eût été abattu. Donc, on peut pas dire que le gouvernement fait fédéral a été trop présent. Là. Fini par se joindre au concert de l'horreur des gens, de ce qu'on vivait collectivement à Montréal. On se joint à son concert de dénonciation, puis de soutien aux parents puis aux proches du jeune Thomas Trudel. Mais ils n'ont pas été très, très vite au départ à réagir. Puis ça faisait pas un gouvernement qui était trop en action là, sur ce sujet-là, mettons.
Ben, le casse-tête des parents de jeunes enfants qui se poursuit encore une fois cette semaine. D'autres journées de grève en CPE qui s'ajoutent. En fait, c'est pas compliqué, là. Les éducatrices affiliées à la CSQ débraient 3 jours aujourd'hui. Ce sera le cas demain et mercredi aussi. FTQ de mardi à jeudi et les syndiqués de la CSN 4 jours, donc de lundi à jeudi. C'est qu'en fin de semaine, les négociations avec Québec pour renouveler la convention collective ont été rompues. Les deux parties ne s'entendaient pas sur les augmentations de salaire pour tous les corps d'emploi autres que le personnel éducateur. Parce que sur la table, on avait des offres qui, que je peux te résumer comme ça, là, 12%, mais qui peuvent atteindre 20% si on travaille 40 heures semaine. Mais là, ce qu'on veut, c'est un rattrapage non seulement pour les éducatrices, mais pour tout le monde. Donc, pour les autres employés de CPE, que ce soit à la cuisine, à l'entretien ménager, là-dessus, les commentaires de Valérie Grenon, elle est de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, suivie de la réaction de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.
On est ouverte, mais il faut que le gouvernement mette des sommes pour les enfants à besoins particuliers, attire la relève et fasse attention à tous les autres corps d'emploi. Mais oui, on veut se parler. On veut l'éviter, la grève générale.
Je leur concède le droit de faire des moyens de pression. Maintenant, quand c'est rendu qu'on a rencontré la majorité de leurs demandes, qu'on a fait des avancées significatives à la table de négociation la semaine passée dans la priorisation de la mission éducative, toujours, je trouve quand même assez déplorable cette semaine que les parents aient à subir ce genre de grève alors qu'on a encore des rencontres de prévues demain, mardi et mercredi avec les syndicats.
Je suis pas très optimiste.
Non, ouais. Ça sent la grève générale illimitée.
Ça sent la grève générale illimitée. Ouais. C'est pas garanti. Tu sais, des fois, c'est quand ça sent mauvais là, que tout le monde met de l'eau dans son vin puis qu'il y a un accord de dernière minute. Mais c'est parce que du côté gouvernemental, on considère qu'on peut plus donner plus du tout, du tout, du tout. Il n'y a plus aucune marge. D'abord, on a donné aux éducatrices presque tout ce qu'elles demandaient. À mon avis, peut-être même trop. J'ai hâte de voir l'entente, mais je pense qu'on a même cédé sur le besoin de travailler 5 jours alors qu'on a besoin de plus de services. Mais là, il y a vraiment une divergence de vue. C'est pour ça que je suis pas optimiste. Là. C'est pas basé sur une atmosphère, c'est basé sur des faits. C'est que les éducatrices se sont mis dans la tête là, qu'il y avait une solidarité syndicale. Et que les gens qui font du secrétariat, de la cuisine, de l'entretien ménager, on est toute une famille, nous autres. Peu importe notre corps de métier. C'est une très belle vision, hein? Malheureusement, elles sont dans l'action syndicale qui marche par convention collective puis tout ça, et c'est pas de même, ça marche. Et les corps de métier différents peuvent obtenir des traitements différents. Quand on a augmenté le salaire des enseignants, là, il y a quelques mois, on a dit, il y a un rehaussement à faire, on a de la misère à recruter des enseignants. Le personnel d'entretien des mêmes écoles où ils travaillent, là, ils n'ont pas eu le même pourcentage, ils n'ont pas eu les ajouts, les retraits d'échelons et tout ça. Ben, ils n'ont pas eu ça. Là. Donc, les enseignants ont obtenu des... Parce qu'on disait, on manque d'enseignants, on a un problème de recrutement d'enseignants, on veut reconnaître mieux les jeunes enseignants, donc on a fait sauter les premiers échelons. Comment on a fait quelque chose pour les enseignants, mais on n'a pas dit, mais dans le building qui est l'école, là, tout le monde, si on augmente les enseignants d'un certain pourcentage, tout le monde qui travaille dans le même édifice devrait avoir le même pourcentage. Non, c'est pas comme ça. Et là, les éducatrices se sont mis ça dans la tête, mais ça arrivera pas. Puis il y a une raison bien logique, c'est que du personnel de secrétariat, puis c'est pas de dévaloriser leur travail. D'ailleurs, le gouvernement leur a donné un petit bonus, là, un petit... Il y a le 6% donné à toute la fonction publique, puis on leur redonne un plus 3 à ceux-là, parce qu'il y aura un petit rattrapage à faire, mais Par exemple, du personnel en cuisine, là, ben, un gouvernement en a dans ses prisons, en a dans ses CHSLD, en a dans d'autres établissements que des CPE. Du personnel d'entretien ménager, il y en a quasiment dans tous les ministères. Du personnel de secrétariat, il y en a dans quasiment tous les ministères.
Ça va-tu être 20 % partout, Mario?
Ben là, les éducatrices, Alexandre, le chiffre qui circule, c'est 23 % qui aura. Donc, on comprend que pour les éducatrices, là, c'est un traitement... C'est une reconnaissance, je reprends les mots de la présidente du Conseil du Trésor, c'est une reconnaissance par le gouvernement que cet emploi-là n'a pas été suffisamment valorisé dans les dernières années, que les éducatrices, principalement, presque exclusivement des femmes, n'ont pas la rémunération qui va avec leur formation puis le rôle qu'ils jouent comme éducatrices, OK? Mais là, de demander que ce 23%-là, les autres qui font de la cuisine, les autres qui font de l'entretien, les autres qui font du secrétariat dans tous les autres ministères, ils ont eu 6 %. Fait que de penser que ceux qui travaillent dans le CPE vont avoir 23 parce que leurs collègues éducatrices ont 23 % d'augmentation, je dis 23, c'est le chiffre que j'entends.
Mm-hmm. Ouais.
Mais ça, tu sais, des fois, là, quand on dit quelque chose, là, ça n'arrivera pas, là. Et là, si on s'est mis ça comme position de principe, bien là, je veux dire, en langage de plomberie, là, c'est jamais dans le coude bien dur, là. Complètement, là. Et c'est comme ça, c'est dans des cas de conflit comme ça, mon expérience, c'est là que les grèves générales illimitées arrivent, sur des cas de principe comme ceux-là. Et là, les parents qui capotent cette semaine parce qu'il y a 3 journées de grève à la CSQ puis 4 journées à la CSN, ben,
ils sont pas sortis.
Puis qui savent plus qui appeler, puis grand-papa et grand-maman sont partis pour la Floride ou sont tannés de garder ou ils sont plus disponibles ou un des deux est malade. Puis là, attelez-vous là. Je pense que vous avez rien vu. Puis j'entendais des histoires d'horreur quand même des parents, là, des parents qui vont utiliser, qui se verront, des parents qui seront pas ensemble aux fêtes, qui seront pas avec la famille aux fêtes parce qu'ils ont épuisé leur congé, ils ont épuisé leur banque de congés. Pour les journées de grève dans les garderies, là.
Ah, es-tu sérieux?
Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu sais, c'est pour ça que quand les éducatrices disent les parents nous appuient, là, ça n'a pas de bon sens de dire ça. C'est... D'abord, il y a des parents qui les appuient. Il y a des parents qui sont pro. Qui sont toujours pro. Il y a des gens qui sont pro-syndicat en toute matière. Analysent même pas.
Peu importe le contexte.
Peu importe, sont pro-syndical. Ça, c'est correct. Mais puis il y a des parents, je pense, qui étaient pro-éducatrices au départ, qui étaient d'accord avec le rattrapage. Mais quand on leur annonce à ces parents-là, mais là, les éducatrices, il y aurait 20-quelques pourcents. Mais là, les parents, ils vont dire, ben là, on était pour le rattrapage. Mais là, d'après moi, le rattrapage, ils ont pas mal là, le rattrapage, là, on l'a, le rattrapage. Là. Puis là, quand on leur dit, ouais, mais là, c'est parce qu'on a une solidarité pour les gens des cuisines. Ouais. Là, mais les parents vont jamais dire aux éducatrices, on vous appuie pas. Voyons, tu leur laisses ton enfant de 2. Est-ce que tu vas, toi, là, te chicaner politiquement à 8h le matin avec la personne à qui tu vas laisser ton enfant de 2 ans à 8h01? Voyons.
Je pense pas. Non.
Arrêtez, là. Ils vont toujours dire, ah oui, on est d'accord avec vous, on vous appuie. Mais allez demander aux parents ce qui se dit là, autour de la table de la cuisine à soir quand ils se rendent compte qu'ils vont peut-être avoir une grève de plusieurs semaines. D'après moi, c'est un peu moins beau, là. C'est un peu moins idyllique.
Puis Mario, comme si ça allait pas déjà assez mal, on va peut-être manquer de vin puis de gin tonic dans le temps des fêtes. Parce
oui.
qu'il y a pas juste les éducatrices en CPE qui sont en grève. Il y a aussi les 800 employés des entrepôts de la SAQ. Ceux qui livrent les bouteilles dans les succursales à travers le Québec sont en débrayage depuis 5 heures ce matin.
Et qui livrent dans les restaurants aussi.
Et oui, ça aussi. Puis ça va être problématique pour plusieurs restaurateurs. Eux, ce qu'ils dénoncent, si je te résume ça, c'est le recours de l'employeur à des travailleurs de remplacement dans les entrepôts où il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Les salaires aussi, c'est un enjeu important. Là-dessus, le conseiller syndical du SCFP, Michel Graton.
Là, on était coincés. C'est l'employeur qui m'emmène là, ce matin. Alors là, on est là, puis on va les rencontrer. Encore une fois, je vais vous dire, on va tout faire pour régler, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur de se battre. Pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on recherchait à prime abord. Alors, la sous-traitance, elle a une limite. Elle est permise, normalement, dans la convention collective. Elle est permise légèrement. Mais s'ils font ça, c'est comme des briseurs de grève. Et là, j'ai plus de moyens, aucun moyen de m'asseoir ou de les forcer de s'asseoir avec nous, sauf d'attendre leur bonne volonté. Et là, on n'est plus là. On n'est pas là, là.
Ouais. Ben, on est dans le discours syndical classique, mais...
C'est l'employeur, Mario.
C'est l'employeur. Oui, mais bon, dans ce cas-ci, l'employeur, c'est la SAQ qui, pour le gouvernement, on n'a pas le même genre de traitement que dans les services publics. Là. C'était quand même une entreprise commerciale, gouvernementale, de propriété publique, mais c'est quand même une entreprise commerciale. Oui, qu'on peut faire beaucoup de farces sur le fait que c'est essentiel, mais non, ce n'est pas essentiel au même titre que les services ambulanciers ou hospitaliers. Donc, on va voir comment le conflit va évoluer. Mais moi, je m'inquiète. Bon, je pense que dans le public, là, je veux dire, si on n'a plus tel vin, on va en boire un autre. Là. Avant qu'il n'y en ait plus de vin du tout, va se passer un certain temps. Mais par contre, dans les vins moins chers, là, on pourrait se retrouver avec un choix pas mal plus limité. Là. Dans le, on va dire dans le 18$ et moins, le choix pourrait se faire gruger assez vite, là, les vins qui circulent le plus puis que le plus de gens achètent. Mais je suis plus inquiet pour les restaurants. Parce que les restaurants, c'est une source de revenus, on le sait. Il y a bien des restaurateurs qui vont dire c'est le vin la source de revenus. T'sais, on fait des repas, on essaye de ne pas perdre d'argent avec le repas. Puis on essaie de gagner notre pain avec le vin. C'est ça. Avec le vin, on se garde une marge de profit, puis c'est là qu'on gagne notre croûte, là, c'est là qu'on se paye. Mais les restaurants ont deux problèmes. Un, les vins sont plus livrés, il n'y a plus les approvisionnements, etc. Bon, peuvent toujours aller s'en acheter directement à la SAQ, mais là, s'il n'en reste plus de la sorte, tu sais, quand tu as un menu de vin, là, t'as pas, ton menu est imprimé et tout ça, il n'y a plus des vins que tu vends, là, tu te retrouves avec un problème. Problème plus gros, c'est ceux, ils sont quand même nombreux, qui font de l'importation privée et qui, eux, pourraient avoir leur produit carrément, comme on dit, pogné, là, coincé. Dans les entrepôts. Les gens vont dire, mais comment ça, si tu fais une importation privée, tu te le fais livrer? Non, non, non. La loi ne le permet pas.
C'est méconnu, ça, Marie.
C'est méconnu. Une importation privée, ouais. Bon. Moi, sincèrement, je savais mettons, un restaurant fait une importation privée, passe par une agence. L'agence achète le vin, par exemple, directement d'un vignoble en Italie, en Toscane, par exemple. Elle l'amène. Je savais qu'il fallait que l'importateur paye à la SAQ toutes les taxes et tout ça, mais je comprends maintenant que c'est pas juste ça. Physiquement, le vin, les caisses doivent transiter par les entrepôts de la SAQ. Et donc, transitant par les entrepôts de la SAQ, s'il y a une grève, ben les 10 entrepôts, ça s'accumule là. Puis il n'y a personne qui sort du produit de là. Donc, le restaurateur a acheté des vins, des importations privées, a acheté des caisses, mesuré ses quantités en fonction de son temps des fêtes. Et s'il y a une grève importante là, qui dure jusqu'au temps des fêtes, bien, l'importation privée va être livrée au restaurant peut-être quand la grève va être finie, le 25 janvier. Mais là, je veux dire, si t'as passé le temps des fêtes, là, ton vin, là, t'es pogné avec un inventaire en janvier, février, mars que tu vends plus, puis t'avais pas de vin. Quand c'était le temps, quand t'avais de la clientèle plein le restaurant, t'avais pas de vin.
Ben oui.
Puis tu reçois des vins. Tu peux toujours dire que tu vas y vendre l'année prochaine, mais en termes d'inventaire supporter... Puis
ils n'ont pas besoin de ça,
non.
Ils ont déjà assez mauvais
claque. Financièrement, c'est pourri. Là. C'est vraiment, vraiment mauvais pour les restaurants. Là.
Un petit mot en terminant, Mario, parce que bon, les activités reprennent du côté de la Chambre des communes. Aujourd'hui, ouais. les députés sont revenus à Ottawa. Aujourd'hui, on procédait à l'élection d'un nouveau président de la Chambre. Et demain, ben, ce sera le discours du trône. Mais ce qui était sur toutes les lèvres, ce qui retenait l'attention encore une fois aujourd'hui, c'était la vaccination dans les rangs conservateurs. Parce que Erin O'Toole a dit que ses 118 députés et lui seraient présents à Ottawa parce qu'ils sont tous vaccinés ou qu'ils ont obtenu une exemption pour des raisons de santé. Mais Mario, des exemptions, là. C'est à peu près 1%
de la population en général. Fait que sur un caucus de 118, ben, statistiquement, t'en aurais un ou deux.
C'est ça. C'est
mettons, ça. Alors, à trois, on déclenchera pas d'enquête, on va dire c'est un hasard, il y en a trois.
Mais mettons qu'il y en a 10-15.
Ça n'a aucun bon sens.
Ben non, c'est ça. Alors là, tu comprends bien que les libéraux ont saisi la balle au bon. Et là-dessus, je te fais entendre Mark Allen, qui est le leader du gouvernement, suivi de Jack Meeting, le chef du NPD.
On... 119 membres et c'est improbable qu'il y a beaucoup d'exemptions médicales qui sont là. C'est pas logique.
On doit suivre les conseils des experts en santé et de trouver des règlements qui sont justes pour vérifier la raison pour laquelle les gens qui ne sont pas vaccinés, pourquoi, et pour aussi prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des gens.
Non, mais tu comprends l'affaire. Là. S'ils se sont trouvés des médecins pour faire des billets de complaisance, pour dire à des gens, parce que il y a très, très, très peu de raisons, là, très, très peu de raisons de ne pas se faire vacciner. Là. C'est une courte... Les gens en inventent plein, là, mais quand tu parles à des médecins vraiment compétents, là, c'est une très courte liste. L'exemple donne là, les gens qui, lors d'un vaccin passé, ont fait un syndrome de Guillain-Barré.
Oui.
Mais tu comprends, c'est pas...
Non.
C'est pas une personne pas sur deux, ça. Là. C'est
des, non, non.
C'est, ça existe, là. Il y en a, j'en connais un, moi. Oui. Mais c'est des très, très, très petits nombres de, d'individus dans la société. Alors, mettons, c'est de même qu'on arrive, on fait un chiffre rond, c'est un 1%. Donc, c'est pas 10% de la population là, qui peut pas être vaccinée. Alors, si t'arrives dans un caucus, puis t'en as plusieurs, là, vraiment 7, 8, 10, 12, 15, ça va laisser entendre qu'il y a des médecins qui ont fait des députés. Tu comprends? Il y a plusieurs problèmes éthiques là-dedans. Là. Il y a des problèmes éthiques de l'avoir demandé, mais ça veut dire qu'il y a des médecins qui ont fait des certificats de complaisance, qui ont donné à des gens. Apparemment, regarde, l'apparence est mauvaise. À moins que par malchance, les conservateurs sont tombés sur toute une série de personnes avec des problèmes de santé pointus. Mais je pense qu'on va être beaucoup plus vite à penser qu'ils ont trouvé des médecins pour leur faire des certificats de complaisance, comme quoi ils ne peuvent pas se faire vacciner alors que c'était pas vrai. Et ça, m'excuse, là, mais... C'est un double scandale. Il y a deux problèmes éthiques importants là-dedans. Un problème de député, puis un problème médical. Alors, ça va... Je trouve quasiment que pour Erin O'Toole, c'est pire ça que d'avoir une poignée de députés absents là, qui seraient chez eux ou qui participeraient par Zoom. Là. Alexandre, merci. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.